Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?». Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée aujourd'hui à la relation entre la France et l'Algérie suite au voyage du président de la République Emmanuel Macron du 25 au 27 août dernier. L'occasion pour nous de revenir avec des personnalités qui ont été dans la délégation avec le président de la République. Vous savez que dans les voyages officiels, 3 jours en Algérie, c'est l'occasion de venir avec des personnalités du monde économique, culturel ou politique. Dans la première partie de l'émission, nous allons recevoir Benjamin Stora, qui est historien. Et dans la seconde partie de l'émission, nous recevrons Sabrina Sebaï, qui est députée des Hauts-de-Seine. Ces deux personnalités étaient dans la délégation. Elles ont une relation forte à l'Algérie pour des raisons personnelles, intellectuelles. Et nous avons le plaisir, dans la première partie de l'émission, de recevoir l'historien Benjamin Stora, qui a accepté notre invitation. Bonjour, Benjamin Stora.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous avez écrit de nombreux ouvrages, et on souhaitait vous avoir dans l'émission pour évoquer avec vous ce voyage, et puis votre analyse de ce moment. Est-ce que c'est un moment un peu crucial dans la relation franco-algérienne, étant entendu que vous aviez été mandaté par le président de la République pour écrire un rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie en juillet 2020. Ce rapport, vous l'avez rendu début 2021, et il y avait 22 recommandations. Et plusieurs de ces recommandations ont été reprises par le président de la République. Est-ce que pour vous, c'est déjà une satisfaction ?
Oui, tout à fait. Il y avait effectivement une commande du président de la République, et c'est à ce titre donc que j'ai rédigé ce rapport, que j'ai remis en janvier 2021, qui contenait à la fin 22 recommandations, préconisations sur un certain nombre de sujets qui m'apparaissaient très importants, sur le plan symbolique notamment. Et le président de la République a repris certaines de ces préconisations. Alors on peut en citer quelques-unes, hein, la reconnaissance par la France de l'assassinat du militant algérien Ali Boumendjel, mais il y a aussi une ouverture beaucoup plus large que des archives, en particulier des archives militaires, des archives de l'État concernant la période de la guerre d'Algérie. Il y a eu la stèle qui a été édifiée en hommage à l'émir Abdelkader à Amboise. Il y a eu aussi une bourse baptisée Bourse André Mandouze pour des chercheurs algériens, une quinzaine de chercheurs algériens ont obtenu cette bourse pour venir travailler en France précisément sur les archives. Il y a eu aussi la réunion d'une commission mixte qui a été mise en place sur la question des essais nucléaires. Comme on le sait, ce sont des choses très très graves et très importantes qui ont frappé des populations civiles en Algérie et aussi dans d'autres registres, comme par exemple le président de la République qui est venu se recueillir à la mémoire des travailleurs algériens qui avaient été assassinés le 17 octobre 1961. Et puis aussi, bon, il a parlé des harkis et des pieds noirs, enfin essayant de un petit peu l'ensemble de ces groupes de mémoire touchés par la guerre d'Algérie. Donc c'est quelque chose, à mon sens, qui n'avait jamais été fait par aucun président de la République avant lui. Donc sur la question mémorielle, dans le fond, il y avait eu une avancée quand même très importante.
Alors, je rappelle pour nos auditeurs qui voudraient consulter l'intégralité du rapport, qu'il a fait l'objet d'une publication « France-Algérie, les passions douloureuses » aux éditions Albin Michel. Je pense que l'ouvrage est encore dans toutes les bonnes librairies.
Tout à fait.
Comment est-ce que vous expliquez que ça soit à ce moment-là, et peut-être aussi parce qu'on a un président qui est un petit peu éloigné des passions de la guerre d'Algérie, de la colonisation, est-ce qu'on est à un tournant où finalement, vous aimiez bien citer Pierre Nora, l'histoire rassemble, la mémoire divise, est-ce qu'on est dans ce moment où finalement, comme beaucoup d'acteurs n'ont pas vécu les événements, comme beaucoup d'acteurs ont disparu, bien les nouvelles générations peuvent peut-être avoir un regard moins crispé, moins partisan, moins viscéral finalement.
Oui, je pense que vous avez raison. C'est vrai que Emmanuel Macron est né bien après la fin de la guerre d'Algérie. Il a 44 ans aujourd'hui, c'est un président très jeune, donc qui n'est pas concerné directement par cette histoire, et dont les parents d'ailleurs n'ont pas été concernés par cette histoire. Donc c'est vrai que ça aide, disons, à regarder ce passé colonial, un passé tragique, hein, bien sûr. Mais en même temps, il faut savoir que les traumatismes liés à l'histoire de la colonisation, et puis aussi, on peut parler de l'esclavage, hein, par extension, sur d'autres grandes périodes sombres de l'histoire française, bien, ce sont des traumatismes qui se sont transmis de génération en génération, parce que voilà maintenant 3 générations que la guerre d'Algérie s'est terminée en 1962, mais pourtant on n'a jamais autant parlé de cette histoire dans les jeunes générations. La question coloniale est une question qui est très vivement débattue parmi les jeunes aujourd'hui. C'est pas un secret que de le dire, il y a énormément de mouvements, d'associations, qui cherchent à combattre sur les questions de reconnaissance, de réparation, etc., etc. Donc, bien sûr que le fait d'être jeune, ça aide, disons, à avancer sans le poids possible de culpabilité. Mais en même temps, il ne faut pas croire que plus on s'éloigne de cette histoire, plus elle disparaîtra. Au contraire, si elle n'est pas traitée, elle risque de revenir. Hein. Donc, vous voyez, c'est un phénomène assez complexe.
Alors, vous le dites, il y a une énorme demande d'histoire dans les deux sociétés, et donc finalement aussi d'une histoire un petit peu, comment dire, de reconnaître tout ce qui s'est passé en positif, mais aussi en négatif, des deux côtés de la Méditerranée, sachant qu'effectivement, on le voit, finalement, on lève des tabous, mais c'est très lent, et parfois c'est très douloureux, et même parfois, il y a des gens qui sont dans le déni, politiquement, et qui, on se rappelle, il y a une quinzaine d'années, d'un projet de loi, je crois que c'était à l'époque du président Chirac, où on voulait reconnaître les bienfaits de la colonisation, comme si finalement on devait masquer ce qui n'allait pas, ce qui n'avait pas été dans cette histoire coloniale.
Oui, bien sûr, il y a encore des résistances très fortes à l'intérieur des sociétés, précisément pour ne pas avancer et traiter la question. Bon, en France, c'est pas un secret de dire que il y a encore des groupes très attachés à l'histoire coloniale sous une forme entre guillemets positive, en particulier dans les rangs de l'extrême droite, qui, disons, a une attitude de réhabilitation du fait colonial. Bon, c'est pas un secret, mais aussi dans certains rangs de la droite républicaine française, le général de Gaulle, qui appartenait à cette famille politique, avait été un artisan de la décolonisation. Mais pourtant, dans des membres issus de cette famille se sont rapprochés, disons, de cette position, de ces positions classiques de l'extrême droite. Mais à gauche aussi, il faut signaler que lorsque j'ai publié ce rapport avec toutes ces préconisations dont on vient de parler, que je viens d'évoquer, eh bien, en fait, les partis traditionnels de la gauche française ne m'ont pas soutenu. Enfin, se sont restés extrêmement silencieux.
C'est-à-dire que
sur ces questions-là, sur les questions traitant de mémoire de la colonisation, dans le fond, la classe politique française, j'allais presque dire dans sa quasi-totalité, reste quand même assez frileuse. Pourquoi ? Parce que il y a encore des clientèles, disons, électorales très puissantes, attachées, disons, à ne pas toucher du tout à ce passé. Donc, c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs ce rapport qui vise à avancer pas à pas, et non pas penser qu'il est possible de traiter par un seul acte, par un seul discours, par un seul geste, mais au contraire en multipliant les gestes, parce qu'il s'agit, disons, de tout un travail de pédagogie lent, mais important, qu'il faut accomplir en direction des jeunes générations.
Alors, vous le dites dans votre ouvrage « France-Algérie, les passions douloureuses », ce travail de mémoire, de vérité et de réconciliation pour nous-mêmes et pour nos liens avec l'Algérie n'est pas achevé et sera poursuivi. Autrement dit, on est encore dans pas du pas à pas, mais vous avez quand même salué la création de cette commission franco-algérienne, et vous avez soutenu finalement aussi l'accès aux archives françaises par des historiens algériens. Ça vous paraît être aussi ça serait un signal fort si ça se concrétisait?
Oui, je pense que s'il y a un travail en commun qui peut se mener entre historiens, bien sûr, des deux rives, encore que, vous savez, quand on est historien, on n'appartient pas forcément par son travail scientifique à telle ou telle idéologie nationaliste. On est un historien, point final. On essaye de s'approcher de la vérité au maximum en s'appuyant sur des archives, sur des témoignages, etc. Mais enfin, tout ce qui va dans le sens à la fois d'un passage, d'une circulation, d'un échange qui existe entre les deux pays, portant sur les questions d'histoire et de mémoire, dans le fond, ne peut que les encourager, parce que il y a effectivement, comme vous l'avez souligné, une très forte attente, une très forte demande d'histoire venant des jeunes générations qui veulent savoir ce qui s'est réellement passé, parce qu'ils sentent confusément qu'il y a non seulement des occultations, bien sûr, mais aussi des reconstructions d'histoire, des récits mythologisés qui ne correspondent pas, par exemple, aux récits familiaux. Donc il y a par conséquent des demandes très fortes et on ne peut que soutenir, de mon point de vue, que toute démarche visant à une sorte de réconciliation et d'apaisement mémoriel par l'établissement des faits historiques.
Alors, vous avez rappelé quelques-unes des 22 recommandations de votre rapport. Un certain nombre, vous l'avez rappelé, ont été, je dirais, reprises par le président de la République. D'autres vont l'être, en tout cas, où il y a des engagements qui ont été pris, notamment lors de la visite en Algérie. Dans les quelques recommandations qui n'ont pas encore trouvé, on va dire, un écho suffisant, quelles sont celles qui vous paraissent devoir être engagées ou reprises dans les années, les mois, les années qui viennent ?
Oh, il y en a plusieurs, bien sûr. Enfin, je pense qu'il faut poursuivre l'ouverture des archives, parce que tout n'a pas été ouvert. Il reste encore des zones d'ombre, bien entendu. Je pense que c'est un travail qui doit se poursuivre. Il y a aussi, j'avais préconisé l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon. Gisèle Halimi est une militante féministe, bien sûr, que beaucoup de monde connaissent, mais aussi a été une militante anticolonialiste. Donc je pense qu'elle est une figure importante d'aujourd'hui pour les jeunes générations. Il y a d'autres choses encore hein, qui doivent être, disons, mises en œuvre. Hein. Il y a la question, par exemple, des disparus. Il y a eu beaucoup de disparitions, notamment pendant la guerre d'Algérie. Il y a encore des familles qui sont à la recherche de leurs disparus. Familles algériennes, bien sûr, mais n'oublions pas les familles européennes aussi qui ont eu des enlèvements, des disparus. Il y a aussi la question de l'entretien des cimetières européens, des cimetières juifs qui existent en Algérie, etc., etc. Tout ça, bien sûr, doit être poursuivi. Et c'est un travail de longue haleine. Vous savez, on ne peut pas tout faire dans une situation historique où la présence française a duré 132 ans. Et donc, par conséquent, il faut sans arrêt remettre en chantier sur un certain nombre de sujets extrêmement brûlants. Et c'est un travail de longue haleine, bien sûr, qui, dans le fond, avait été négligé jusqu'à présent et qui, véritablement, ne commence que maintenant.
Alors, ce sera ma dernière question, peut-être une question un peu plus personnelle. Vous-même, vous êtes né en Algérie, à Constantine. Votre famille a connu l'histoire de ces Français rapatriés. Vous avez, par votre engagement militant, par votre... envergure intellectuelle, comme historien, réussi, à concilier le dépassement de votre histoire personnelle et en même temps la volonté de réconcilier et de tendre la main. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ces Français, à des Français d'aujourd'hui, qui, eux, n'arrivent pas à faire le deuil de cette histoire et pour qui ça reste d'abord une souffrance et une souffrance difficile à oublier?
Ben, c'est très simple, c'est ce qu'on vient de dire depuis le début de cet entretien, c'est qu'il faut, regarder en face ce passé. C'est très difficile, parce que pour là, je pense que votre question fait allusion aux Français d'Algérie, les Européens d'Algérie, absolument, qu'on a appelé les pieds noirs, c'est ça la question.
Et puis leurs descendants, parce que c'est une histoire qui se transmet de génération en génération, vous l'avez dit, il y a encore des gens qui portent cette histoire et parfois qui portent cette douleur, tout simplement.
Oui, alors donc moi ce que je leur dis tout simplement, c'est qu'il faut continuer à regarder ce passé-là et puis peut-être croiser les mémoires, parce qu'ils ont, eux, une perception de cette histoire qui est la leur, bien sûr, hein, de l'exil, la terre perdue, etc. Mais il y a d'autres histoires de personnes qui ont aussi vécu dans ce pays. Je pense en particulier aux descendants de l'immigration algérienne en France. Il est temps, 60 ans après, de croiser les mémoires, de s'entendre les uns et les autres hein, sur essayer en France. Hein, que des passerelles existent, parce que c'est très mauvais de rester enfermé dans une seule vision de l'histoire, au risque, bien sûr, de l'affrontement et de la guerre des mémoires.
Merci, Benjamin Stora, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un rapport qui a été publié, France-Algérie, les passions douloureuses aux éditions Albin Michel. Et on vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation dans cette émission consacrée à la visite du président de la République en Algérie à la fin du mois d'août, à laquelle vous avez participé et qui a fait l'objet bien de plusieurs annonces dont on a eu l'occasion d'échanger avec vous ce matin. Merci, au revoir.
Merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» consacrée à la relation entre la France et l'Algérie suite au voyage du président de la République du 25 au 27 août dernier. On a voulu revenir sur ce déplacement et aussi sur les attentes, sur le partenariat renouvelé, je reprends les mots du président de la République. Et on a eu la chance d'avoir dans la première partie de l'émission Benjamin Stora qui était dans cette délégation. Et on a également pour la deuxième partie de l'émission un autre témoin, Sabrina Sebaï, bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio Orient.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de la 4e circonscription des Hauts-de-Seine sur Aide-Nanterre, responsable, donc député de la NUPS, mais responsable national de Europe Écologie Les Verts. Et vous étiez aussi dans cette délégation où il y avait de nombreuses personnalités du monde politique, culturel, économique. La première question que j'ai envie de vous poser, Sabrina, c'est comment vous avez vécu ce moment, ce voyage officiel ? Est-ce que pour vous, ça restera dans un moment important, une étape importante dans la relation parfois compliquée entre la France et l'Algérie ?
Alors oui, absolument. C'est un voyage, je pense, extrêmement important et nécessaire dans un contexte où on voit bien les relations sont extrêmement compliquées. D'ailleurs, elles se sont tendues entre l'Algérie et la France ces dernières années et particulièrement ces derniers mois. Donc je pense que c'était important de remettre à minima un dialogue cordial et de remettre en place de vraies relations diplomatiques entre les deux États. Donc ce voyage, pour moi, c'est vraiment une première étape. Je ne pense pas que tout soit réglé, mais c'était une première étape qui est nécessaire pour amorcer quelque chose, en tout cas tout du moins un travail entre les deux pays.
Alors, comment vous percevez l'action du président de la République qui s'est investi quand même sur ces sujets de la relation entre la France et l'Algérie, avait fait dès sa campagne de 2017 des déclarations fortes sur la colonisation, bon, qui parfois ont été, je dirais, atténuées dans d'autres déclarations. Mais est-ce que vous considérez que c'est plutôt une bonne chose qu'un président de la République qui est relativement jeune et qui a une certaine distance, il n'a pas participé à la guerre d'Algérie comme d'autres présidents de la République, il n'était pas impliqué dans des faits coloniaux ou dans des actions à cette période. Vous pensez que c'est la distance, c'est le fait que ce soit une nouvelle génération qui lui permet d'essayer d'apporter un peu un nouveau souffle dans la relation entre nos deux pays?
Bah, en fait, vous l'avez rappelé, hein, il y a eu des déclarations liées à la campagne de 2017 sur lesquelles il est revenu derrière, qui a été un camouflet pour toutes les personnes et qui avait mis de l'espoir aussi dans ces déclarations. Et en réalité, là où il y a une vraie difficulté, c'est que c'est important de traiter ces questions, et notamment la question mémorielle entre l'Algérie et la France, mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas un opportunisme électoral. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des annonces au moment des campagnes électorales, revenir dessus une fois qu'on est élu, puis remettre encore, dire on fait un rapport qui a été réalisé par Benjamin Stora sur cette question mémorielle notamment. Mais vous voyez, en fait, les déclarations, on a plutôt le sentiment d'un aller-retour permanent de la part d'Emmanuel Macron. Et c'est là où il y a une vraie difficulté aujourd'hui de se dire qu'on va pouvoir avancer de manière sereine sur cette question-là. Donc nous, ce qu'on attend vraiment, c'est un travail qui ne fait pas d'aller-retour, c'est vraiment d'engager et d'enclencher quelque chose autour de cette question-là, sans retour en arrière, et de laisser, et ça c'est plutôt la bonne chose, en tout cas je l'espère, qu'on va pouvoir avancer dessus, c'est l'ouverture des archives et de permettre vraiment aux historiens d'engager un vrai travail à partir d'archives qui ont été déclassifiées.
Alors, dans ce point de vue-là, vous partagez les vœux de Benjamin Stora qui effectivement dit la même chose. Il dit qu'il faut que ce travail d'histoire commune soit fait des deux côtés de la Méditerranée. Alors, vous dites, c'est vrai, le président de la République a eu parfois des paroles fortes, parfois des paroles contradictoires, mais il y a eu aussi des actes. Et là, Benjamin Stora, quand même, lui donne crédit d'avoir reconnu la responsabilité de l'État français dans la mort du mathématicien Maurice Audin, disparu en 1957 à Alger. Il a également honoré la promesse de restituer à Alger les crânes des Algériens tués en 1849 lors de la conquête du pays, dont les restes avaient été conservés au Musée de l'Homme à Paris. Et plus récemment, il est venu près de votre circonscription, au pont de Beson, entre Nanterre et Colombes, pour honorer la mémoire des victimes du 17 octobre 1961, ce qu'aucun président de la République n'avait fait avant lui.
Oui, tout à fait. Alors, ce que je dis, c'est que c'est pour ça que je dis qu'il y a du bon dans le sens où on avance sur certaines parties, mais attention, parce que la question mémorielle, elle se règle certes en déclassifiant les archives et en faisant ce travail d'histoire pour pouvoir permettre de mettre une réalité de ce qu'il s'est passé et donc de mettre des mots et peut-être une responsabilité sur des actes qui ont été commis. Mais ce que je dis aussi, c'est que le passé ne peut pas se détacher complètement du présent. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il reste une part de stigmatisation et de discrimination vis-à-vis des franco-algériens. Et donc, on ne peut pas d'un côté dire on ouvre les archives pour atténuer, pour reconstruire, pour réparer et pour travailler ensemble cette histoire finalement entre la France et l'Algérie, et de l'autre côté, continuer à discriminer, à disqualifier les franco-algériens des deux côtés de la Méditerranée, notamment c'est poser la question des visas, mais pas que, se pose la question de l'accès à l'emploi pour les franco-algériens. Il y a des chiffres et des statistiques très claires sur la discrimination qu'ils subissent aujourd'hui. Il y a l'emploi, il y a plein d'autres sujets, si vous voulez. En fait, pour moi, les deux ne se déconnectent pas. Il faut travailler le passé pour permettre d'avancer, mais il faut aussi avoir un respect pour les franco-algériens qui sont aujourd'hui en France et ne pas les maltraiter, comme c'est le cas aujourd'hui, notamment, on a un ministre de l'Intérieur qui a des mots très durs parfois. Et donc, tout ça, en fait... si vous voulez, ce travail doit se faire sur les deux temps. Ce n'est pas juste en ouvrant les archives et en posant sur une page blanche, finalement, cette histoire, qu'on réglera tous les maux d'aujourd'hui.
Alors, peut-être aussi, on peut évoquer les échanges que vous avez pu avoir lors de ce voyage en Algérie. Du côté de la jeune génération algérienne, comment est-ce qu'on envisage cette relation avec l'ex-puissance coloniale et quelles sont les attentes finalement vis-à-vis de la France? Est-ce que c'est, comme le disent les responsables politiques algériens depuis plusieurs décennies, une forme de repentance, des excuses, d'aller beaucoup plus loin dans la reconnaissance du drame qu'a été la colonisation? Mais est-ce que c'est pas aussi de concevoir finalement, de dépasser aussi un peu cette histoire pour construire des projets en commun et renforcer concrètement le partenariat entre nos deux pays?
En réalité, je pense qu'il y a besoin. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. On a besoin d'une séquence de reconnaissance de ce qui a eu lieu. La colonisation reste un crime. C'est défini comme un crime. Donc, je pense que tant qu'on n'a pas accepté le fait que la colonisation a été un crime et que tout ce qui s'est passé, on a été aussi. Donc, on a besoin effectivement de mettre des mots vraiment sur ce qui s'est passé, d'avoir une reconnaissance, en tout cas la reconnaissance d'une responsabilité d'un État sur un autre. Et c'est ce qui permettra justement d'enclencher ce travail finalement de partenariat, parce qu'une fois en fait qu'on aura établi ces faits historiques, on pourra travailler sur un pied d'égalité. Il n'y aura plus cette relation finalement, ce sentiment d'un État qui serait encore quelque part, qui n'aurait pas coupé le cordon ombilical entre ces deux nations. Et je pense que c'est là où c'est important, c'est parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle a envie d'être un partenaire économique, un partenaire culturel, sportif, politique, mais sur un pied d'égalité avec la France. Et pour ça, je pense qu'on a besoin de clarifier vraiment cette histoire, de mettre des mots, de dire ce qui s'est passé pour avancer. Et aujourd'hui, on en est encore un peu loin quand même.
Alors, on en est loin, mais dans les mots quand même, lors de la visite officielle, le président de la République a parlé d'un partenariat renouvelé, d'une histoire d'amour entre nos deux pays, d'une histoire ancienne. Bon, il a aussi dit évidemment que c'est une histoire faite de souffrances, de douleurs et de moments compliqués. Est-ce qu'il n'a pas effectivement dans les mots, le président de la République, essayé de réparer un petit peu les frustrations et le sentiment effectivement que la France avait encore du mal à regarder son passé dans les yeux?
Oui, il y a des mots qui ont été dits pendant ce voyage, personne ne le nie. Mais en fait, là aujourd'hui, vous voyez bien, on est encore au tout début de quelque chose. C'est-à-dire que là, on va donner une liste de historiens qui vont travailler sur les archives. On va pouvoir avoir un travail qui sera éclairé à partir de documents officiels de l'époque. Et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on pourra avoir des mots. Et c'est pas juste, si vous voulez, c'est pas juste des mots qu'on vient. Encore une fois, on peut dire ce qu'on veut quand on est en déplacement. On peut dire vraiment, on peut avancer sur plein de choses, reconnaître des choses. Mais il faut des faits et des faits historiques. Et je pense que c'est ça qui permettra vraiment d'avancer sur ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même on est au milieu du guet, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on a un président qui avance, parfois qui recule, mais qui avance aussi. Ce voyage a été important. Et de l'autre côté, on a le sentiment que tant qu'on n'a pas levé le couvercle finalement sur ce passé, on réussira pas réellement à tourner la page. Et je pense que l'envie, en tout cas aujourd'hui, de tout le monde, de la jeunesse qui est en France, mais aussi de la jeunesse qui est de l'autre côté de la Méditerranée en Algérie, c'est de tourner cette page et d'avancer sur peut-être une nouvelle page qu'on pourrait réécrire ensemble sur un pied d'égalité, quel que soit le secteur sur lequel on souhaite travailler ensemble. Donc oui, c'est un premier pas. Et moi, à titre personnel, ça fait longtemps que je milite pour la déclassification des archives, pour qu'on avance sur ces questions mémorielles parce qu'elles sont importantes. Et j'attends de voir ce que va donner la suite.
Alors justement, revenons peut-être sur votre actualité. Vous êtes nouvellement élu au Parlement, à l'Assemblée nationale. Il y a parfois eu des prises de position fortes de l'Assemblée nationale, notamment sur des temps mémoriels qui devaient être reconnus. C'était le cas du 17 octobre 1961. Est-ce que vous pourriez aller, par exemple, jusqu'à proposer le vote d'une motion par le Parlement appelant à aller encore plus loin que ce qui a déjà été fait et à reconnaître la gravité et aussi la responsabilité de l'État qui reste encore un petit peu en retrait et qui refuse d'assumer en mettant souvent en avant la responsabilité du préfet Papon alors que, on le sait, les plus hautes autorités de l'État étaient informées de la répression et des conséquences qui allaient être liées à cette présence policière et au fait d'utiliser la violence contre les manifestants algériens qui, rappelons-le, manifestaient contre le couvre-feu qui leur était imposé.
Vous voyez, c'est exactement ce que je dis quand je dis on est au milieu du guet. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le préfet, donc à l'époque Maurice Papon, qui décide et qui décrète et qui va donner lieu à ce fameux 17 octobre, en fait, le préfet n'est que la déconcentration, et c'est l'État. Donc l'État ne peut pas nier sa responsabilité dans ce qui s'est passé. Et on a besoin d'avancer. Et en fait, tant qu'on est dans un déni, parce qu'on a le sentiment qu'à partir du moment où on reconnaît ce qui a été fait, il y a une forme de repentance. Moi, je pense que la France, en tout cas l'histoire de la France, elle est assez grande pour pouvoir regarder en face son passé, reconnaître ses erreurs et avancer. Et aujourd'hui, on est dans un déni qui fait qu'on n'avance pas sur la question du mémorial, mais en plus de ça, ce qui ajoute un contexte et un climat politique aujourd'hui extrêmement compliqué en France. Il suffit de regarder les médias tous les jours pour s'en rendre compte. Et donc, c'est là toute la difficulté. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas réussi à effacer, ou en tout cas à repartir d'une page blanche sur cette histoire qui nous est commune. Et en plus, de l'autre côté, on y ajoute d'autres problématiques qui sont tout à fait actuelles aujourd'hui.
Et donc, finalement, c'est peut-être à votre génération aussi de réussir là où les générations d'avant n'ont pas réussi d'abord à faire exister cette histoire commune et à l'écrire, y compris avec cette commission d'historiens, et puis aussi, c'est ce que Benjamin Stora appelait de ses voeux, avoir un dialogue un peu permanent entre tous les acteurs de cette mémoire franco-algérienne, ceux évidemment qui ont vécu dans la chair la colonisation et aussi l'exil, puisque ça a été aussi un traumatisme pour beaucoup de nos compatriotes de devoir quitter l'Algérie en 1962, et puis évidemment tous les crimes qui ont été commis dans cette période et qui doivent être regardés droit dans les yeux.
Absolument. Le dialogue doit être vraiment permanent. Je pense qu'il faut travailler beaucoup plus sur les dates de commémoration sur les deux rives de la Méditerranée. Moi, je sais que j'ai déjà eu l'occasion d'emmener une délégation de jeunes pour faire la commémoration du 8 mai 45 à Sétif. Pour la plupart d'entre eux, ils découvraient cette partie de l'histoire. Ils étaient impressionnés de vivre cette commémoration de l'autre côté de la Méditerranée. Je pense, de mon point de vue, qu'il faut accentuer vraiment tout ce qui est possible de faire pour partager cette mémoire. Et donc, oui, notre génération, elle aura un rôle à jouer, parce que le drame, finalement, dans tout ça, c'est que, y compris les générations précédentes, il y a une sorte de tabou sur cette histoire. Et en fait, nos grands-parents, nos parents, ne nous ont pas forcément raconté ce qui s'est passé à l'époque où il y avait encore la colonisation. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une soif de savoir et une soif de comprendre de ce qu'il s'est réellement passé. Et c'est là où le travail des historiens devient primordial, c'est là où la déclassification des archives est essentielle. Et bien sûr, et nous, notre rôle sera de lire, d'apprendre, de comprendre, et puis de transmettre aussi, pour que justement ce qui s'est passé ne se reproduise plus jamais, et qu'on puisse travailler main dans la main sur les dates de commémoration, et puis sur le reste, que ce soit culturel, que ce soit sportif, enfin, il y a plein de passerelles à construire en étant vraiment partenaire et non plus une relation de dominé à dominant.
Merci beaucoup Sabrina Sebaï d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes députée de la 4e circonscription des Hauts-de-Seine, sur Rennes et Nanterre, que vous êtes également responsable nationale d'Europe Écologie Les Verts, et bien vous êtes aussi issue de cette histoire, puisque vos parents étaient algériens. Vous êtes né en France, mais vos parents étaient algériens, et donc vous avez participé à cette visite officielle, et on vous remercie vraiment d'avoir témoigné et porté aussi votre regard, celui d'une autre génération, qui permet peut-être aussi d'imaginer que demain la relation entre la France et l'Algérie puisse être plus apaisée et moins conflictuelle. Merci beaucoup,
merci,
Sabrina.
Merci à vous.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.